Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Vous m'en direz des nouvelles ?
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. C'est une bande dessinée hybride, une histoire qui nous emmène au cœur de la terrible réalité du réchauffement climatique et en même temps dans un onirisme chamanique des plus colorés. Une aventure qui questionne l'avenir du genre humain et qui nous plonge en même temps dans le passé, dans les mythes ancestraux des Amérindiens d'Alaska. Un récit d'apprentissage qui, de case en case, nous invite à progresser vers une meilleure connaissance de nous-mêmes, mais aussi de la nature qui nous entoure. Le titre lui-même fait d'ailleurs référence à un être hybride qui porte en lui à la fois l'inquiétude de l'anthropocène et l'espoir d'une adaptation salutaire. 4 ans après son Fauve d'or à Angoulême pour son album La Saga de Grimmer, Jérémy Moreau nous emmène à nouveau dans le Grand Nord. Les Pizli, son nouvel ouvrage, est de ceux dont on sort ébranlé dans nos certitudes et peut-être un petit peu meilleur. Il est disponible aux éditions Delcourt et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Jérémy Moreau.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Le premier personnage que le lecteur découvre s'appelle Nathan. Et il fait littéralement corps avec son GPS. Il est presque sous son emprise. Alors je suis allé vérifier parce que ça m'a quand même très étonné, quand même une telle emprise. Et en fait, l'addiction au GPS, ça existe, c'est une réalité.
Alors, je ne savais pas pour l'addiction. Par contre, moi, je me suis intéressé à une étude scientifique qui montrait que en cas d'utilisation extrêmement intensive du GPS sur des c'était une expérience qui était sur faire réaliser sur les chauffeurs de taxi parisiens et en cas d'utilisation intensive pendant plusieurs années ils se rendaient compte qu'en fait ils développaient une forme de dyslexie spatiale, c'est-à-dire une incapacité à cartographier le réel autour d'eux et donc ils perdaient littéralement le sens de l'orientation. Donc c'est une petite zone dans le cerveau qui s'occupe de la spatialisation et comme un muscle qu'on n'utilise plus, il s'atrophie. Et donc j'ai trouvé cette anecdote assez intéressante, assez parlante sur à quel point la modernité pouvait produire des objets techniques qui nous arrachaient de la nature. Et comme j'avais très envie de m'atteler à la thématique du réchauffement climatique, je trouvais que c'était un point de départ assez original pour se lancer.
Alors, il y a sûrement des chauffeurs de taxi ou des chauffeurs de VTC qui nous écoutent en ce moment même, mais il faut vraiment leur dire de faire attention effectivement à ce risque-là, parce que votre personnage, donc Nathan, il sillonne la ville les yeux rivés comme ça sur l'écran du téléphone portable accroché au tableau de bord de sa berline. Est-ce que vous êtes un nostalgique du temps où les chauffeurs de taxi connaissaient Paris comme leur poche et pouvaient presque rouler les yeux fermés sans une aide technologique?
Bon, déjà, j'ai pas tellement pris le taxi, moi, il y a bien longtemps. Mais après aussi, il faut savoir que ça se passe comme ça en France. Et l'étude, justement, est comparative avec les chauffeurs londoniens. Et il faut savoir qu'aujourd'hui encore, les chauffeurs londoniens, pour obtenir leur licence, doivent connaître par cœur la carte de Londres. Mais après, bah, c'est clair que moi, j'espère un retour... la possibilité d'arriver à faire rentrer, pour moi, c'est vraiment cette idée d'imprimer le monde en soi. Et c'est clair que le GPS vient s'imposer un peu comme une vitre entre nous et le monde. Et c'est juste, j'observe les conséquences délétères.
Oui, parce que conséquences délétères, on a vraiment l'impression dans la première partie de l'album, en voyant vos dessins, que votre personnage, Nathan, se laisse littéralement porter par le GPS, un peu comme s'il était en pilotage automatique. C'est vraiment, il y a une forme de métaphore graphique là, absolument, absolument incroyable. Il a plus pied, il plane, donc il est dans l'habitacle de son véhicule, et en même temps, vous le dessinez au-dessus de la ville, la nuit, donc les lumières tout en bas. En fait, vous dites énormément de choses en un seul dessin, quoi. C'est vraiment cette impression-là que ça donne.
C'est tout mon objectif d'artiste. Alors, je lis énormément de théories, de livres avant de produire mes bandes dessinées. Mais tout mon travail, c'est d'arriver à faire une traduction de la matière théorique en images. Et donc, effectivement, je suis très content quand je finis par trouver une image qui va permettre de remplacer de très longs discours. Mais ça ne vient pas toujours si facilement. Et donc, au début, j'avais une scène avec un médecin qui expliquait ce qui se passait dans son cerveau. Et puis, tout d'un coup, j'ai eu cette image hyper forte. Et oui, il se trouve que c'est au même moment que j'ai découvert Bruno Latour et son livre « Où atterrir ?»
Le regretté Bruno Latour, qui est décédé le week-end dernier.
Voilà, tout à fait. Et on est exactement dans son propos, en fait. La modernité nous a projetés dans un ciel, le mythe moderne, le désir de conquête, l'ailleurs. Et la grande leçon du changement climatique, c'est comment est-ce qu'on revient ici? On abandonne l'avion et on doit atterrir. Et c'est tout le récit dramatique de mon héros Nathan.
Oui, alors Nathan, on ne peut pas dire que sa situation soit très enviable. On le voit dès la première planche, d'ailleurs, puisqu'il a un client qui régurgite sur le siège arrière de sa berline. Il bâille, il est épuisé. Il faut dire que quand il sillonne pas la ville pendant la nuit, eh ben, il s'occupe de sa petite sœur qui s'appelle Zoé et de son petit frère qui s'appelle Étienne. C'est comme ça depuis la mort de leur mère. Nathan est tout simplement lessivé. Et ce qui devait arriver arriva. Alors, il va se prendre un poteau. Hein, on peut le découvrir à la page 20. Alors, rien de très grave, puisqu'il y a Il y a l'airbag quand même, mais la voiture se retrouve un peu hors d'usage. Mais ce n'est pas tellement la scène de l'accident que je voudrais que vous nous commentiez, Jérémy Moreau, mais la page qui précède immédiatement. Comment est-ce que vous l'avez conçue, cette page? Parce que là, on n'est plus du tout dans l'univers de la nuit, des lumières. On est dans un dessin qui est extrêmement... Enfin, qui est rose, si vous voulez, pour le coup. On est sur une page de tonalité rose qui montre quelque chose de très noir, en fait.
Oui, alors, effectivement, c'est une bande dessinée en rose fluo. J'ai utilisé le rose fluo comme un espèce de pattern graphique pour représenter les moments de désorientation, puisque c'est aussi une bande dessinée sur la perception. Et donc, il y a un enjeu à trouver des patterns graphiques qui expliquent...
Alors, pattern, c'est de l'anglais, on va dire, une sorte de balise, motif. De code couleur, de motif.
Voilà. Un code graphique, effectivement. Et donc, alors dans cette page, c'est vraiment en fait ce que produit le GPS, c'est une mise en série du monde. On efface toutes les particularités, toutes les singularités de quand on marche dans la rue, on est attentif à ce qui se passe, tel panneau, peut-être un chien qui fait quelque chose, on est dans le monde. Et le GPS, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça raye absolument toutes les petites choses du présent, ça nous arrache à ça. On se retrouve juste à écouter une espèce de petite voix qui nous parle doux, qui nous parle du satellite dans l'espace. Donc, c'est vraiment une des pires manières de s'arracher au monde. Et donc, c'était ça que je voulais représenter un peu avec cette planche. C'est qu'en fait, chaque rue ressemble à une autre. On est dans un monde de géométrie, un monde d'abstraction. Et à force d'abstraction, à force que tout se ressemble, en fait, il n'est plus nulle part.
Alors, il se trouve, Jérémy Moreau, qu'au moment de cet accident, Nathan a une cliente, une dame assez âgée, prénommée Annie, qui saisit tout de suite hein, que Nathan est au bout du rouleau, qu'avec Étienne et Zoé, eh ben, ils ont quand même besoin de souffler, ils ont besoin de changer d'air dans tous les sens du terme. Et elle les invite à les suivre, à l'accompagner chez elle. Et chez elle, c'est en Alaska. Puisqu'Annie est issue d'un peuple autochtone, les Gwich'in, et qu'elle entend renouer donc avec ses ancêtres, avec sa terre natale. Ça fait très longtemps qu'elle n'y est pas allée. Et là, Jérémy Moreau, on se dit, quand on a lu la saga de Grimmer qui se passait en Islande, eh ben, qu'on retrouve votre appétence pour le Grand Nord. D'où vous vient comme ça cet intérêt pour cette partie-là de la planète?
Je sais pas, je pense que, alors j'ai pas énormément de plaisir à dessiner la ville, j'ai aussi beaucoup de choses à reprocher à ce monde occidental.
Vous pensez que la ville est toxique? C'est un peu ce que dit Annie d'ailleurs.
En tout cas, la ville telle qu'on la produit actuellement, c'est-à-dire dans le sens d'une isolation absolue avec toutes les autres formes de vivant. Pardon, je fais une petite digression, mais j'habite dans un petit village actuellement et en fait je me réjouis de voir des fourmis qui rentrent dans ma maison. Récemment, j'ai eu une invasion de coccinelles, je laisse se développer les araignées, j'ai quelques souris et en fait ça me frappe. Moi, j'ai toujours été un urbain et toutes les fois où j'ai pu habiter en ville, donc bon, j'avais la chance de ne pas avoir des habitats délabrés, mais ça me choque à quel point est-ce qu'on cherche toujours l'isolation. On cherche toujours à créer une frontière entre le monde humain et le reste. Et c'est assez parlant de comment est-ce qu'on gère nos sociétés actuellement. On n'a pas envie de se mélanger avec le reste du vivant. C'est toujours cette espèce de palais de cristal du monde humain qui n'irait pas se mélanger parce qu'il est supérieur.
Mais la solitude à la campagne, c'est une chose. Le Grand Nord, c'est autre chose.
Oui, après, tout ça commence avec le choc artistique et littéraire des romans de Giono.
Oui.
Le moment où je découvre que voilà, le décor peut devenir un personnage. On voit sa littérature, on voit comment par le vocabulaire, il magnifie les paysages. Et donc, il dit souvent qu'il peut parler d'un personnage comme d'un paysage ou l'inverse. Et je crois que je porte encore la trace de tout ça. Et donc, j'ai effectivement un attrait pour des paysages sublimes.
Grandiose pour cette lumière aussi, parce qu'il y a une lumière très singulière aussi qui se détache de cet album. C'est la lumière d'un ciel pur, la lumière parfois des aurores boréales aussi. Il y a quelque chose de très singulier. Par quels outils graphiques justement vous avez pu rendre justement cette lumière si particulière, Jérémy Moreau?
Alors là, effectivement, j'ai la caractéristique de changer de style d'un album à l'autre. Et donc là, ça se passe en numérique, sur Photoshop.
C'était évident de choisir justement cet outil numérique-là pour raconter cette histoire-ci, qui justement est empreinte justement à la fois avec la nature la plus profonde et la modernité la plus contemporaine.
Oui, je trouvais que ça faisait sens dans ce monde hyper digitalisé d'utiliser aussi du coup l'outil numérique. Après, voilà, c'est aussi des aspirations artistiques sur le moment. Je suis très influencé par la nouvelle création. J'aime bien regarder ce qui se fait par les jeunes qui sortent des écoles, le monde des fanzines. Et donc, l'utilisation de l'outil numérique et aussi l'utilisation du fluo, qui est assez récent,
oui.
Actuellement, dans un procédé qu'on appelle la rhizographie, qu'on retrouve beaucoup dans les fanzines. Et j'essaie de garder cette ouverture, cet intérêt pour les innovations. Et j'aime rester un peu, entre guillemets, à la page et aller jouer avec ces nouveautés graphiques. Et donc voilà, ça m'a plu d'aller jouer avec ce fluo pour voir ce que je pouvais en faire.
Sans roi, plus jamais je ne serai proie. Désormais, je serai moi. C'est la fin des loups et des larmes. J'expire enfin et dans le calme, j'inspire le froid de Ketchikan.
Alaska et la voix de la chanteuse canadienne Andréane Mallette dans VMDN sur RFI avec Jérémy Moreau, pour son album de bande dessinée Les Pizli, publié chez Delcourt dans la collection Mirage. Et la surprise, quand le trio Nathan, Zoé et Étienne débarque en Alaska, c'est que si l'air y est bien plus pur qu'à Paris, si les paysages y sont vraiment grandioses, si les grands espaces ont des allures de refuge, de havre de paix, eh bien tout ne tourne pas rond là-bas non plus. Le village qu'Annie connaissait est largement détruit, il reste que quelques rares maisons, les caribous vont pas très bien, ils sont même parfois franchement malades, les marais ne sont plus là, ils se sont transformés en lacs, les oies migrent avant l'heure, bref, les effets du réchauffement climatique se ressentent et mettent déjà en péril la vie, parfois même la survie, la pérennité en tout cas des habitats. Et d'autant plus que ces habitants-là vivent vraiment en osmose avec et par la nature. Hein. La cueillette, la pêche, la chasse permettent évidemment de se nourrir. Alors comment, on parlait des couleurs tout à l'heure, comment donner vie, comment donner des couleurs au changement climatique, Jérémy Moreau?
Alors pas la cueillette, je pense qu'il n'y a pas grand-chose au niveau cueillette, mais
non, pas grand
c'est
chose,
vraiment des peuples de chasseurs. Ouais. Et c'est pour ça aussi qu'ils développent ce rapport à l'animal si spécial. Comment est-ce qu'on dessine le changement climatique? Je ne sais pas, bah c'est tout le problème de cette bande dessinée.
Voilà, parce que dessiner le changement, ça veut dire qu'il faut se baser sur quelque chose qui existe. Donc on ne peut pas non plus faire avant-après. On ne peut pas faire ça dans une bande dessinée.
Oui, oui, bah ça passe par des incendies, des inondations, et un caribou qui passait depuis des générations et des générations par un petit endroit sur une rivière puisqu'elle était gelée de tout temps. Et là, évidemment, elle est plus friable et donc on a une double page où un caribou est perdu sur cet iceberg à la dérive. Voilà, c'est plein d'idées qui font que toutes les relations qui avaient été stabilisées depuis des générations et des générations avec un monde qui était plutôt stable, tout ça se retrouve complètement emporté par une espèce de tempête. Et comme dit Annie, en fait, ils vivent dans le brouillard. Ils ne voient pas à un mètre devant eux. Toutes leurs certitudes sont ébranlées et c'est certainement le monde qui nous attend.
Alors ce monde, justement, c'est quand même un monde qui est extrêmement spectaculaire. Les paysages alaskiens, je vais aller vérifier si ça existe l'adjectif alaskien, les paysages alaskiens sont vraiment magnifiques. Vous êtes rendu sur place, Jérémy Moreau?
Hélas, non. Bon, la fabrication s'est déroulée un petit peu pendant les périodes de confinement.
Oui, donc forcément, pour prendre l'avion, c'était compliqué.
Voilà.
C'est plus écologique, d'ailleurs.
Ouais, et puis là, j'ai une toute petite fille, donc j'essaie de ne pas trop me déplacer.
Donc, photo, film ou pas du tout? On n'est pas dans un dessin réaliste, mais quand même un petit peu. C'est ça qui est assez étonnant, c'est qu'il y a ces couleurs flashy, ces couleurs fluo, il y a un côté très, très onirique, et en même temps, c'est pas du tout réaliste, et en même temps, ça l'est un petit peu. Je ne sais pas comment expliquer ça aux auditeurs, mais je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
Oui, alors après, moi, je cherche pas forcément le réalisme. Moi, ce qui m'intéresse, c'est une vision subjective, une perception, une sensation. Et donc, c'est pour
ça... Une suggestion, d'une certaine façon?
Oui, une suggestion, oui, oui. Mais voilà, moi, je cherche pas... C'est pas parce que je fais une histoire qui ressemble à une espèce de retour à la Terre que je vais faire des couleurs terreuses ou quoi. Ça m'intéresse de proposer une vision moderne aussi des décors. Et c'est pour ça qu'il y a des couleurs très, très, très saturées aussi.
Alors, on est frappé par vos ciels, hein, on le disait, parfois d'un bleu très pur, parfois plus gris dans la dernière partie de l'album, qui est aussi plus sombre, parfois aussi teinté de rose. Par exemple, à la page 77, donc dans la scène dont on va entendre un extrait que Pierre Plantier, notre réalisateur, a mis en onde dans un instant, il y a un ciel. Est-ce que vous pourriez nous décrire le ciel que vous dessinez donc au cœur de cette page 77, Jérémy Moreau?
Oui, bah c'est une aurore boréale, comme on ne peut pas beaucoup en voir sous nos latitudes françaises. Mais oui, pour moi, c'était évocateur, puisque ça permettait un petit peu d'annoncer le rapport au mythe. Puisque j'en ai pas parlé, mais ce qui m'intéressait dans l'idée de propulser mes personnages dans un environnement alaskien, un endroit où les mythes sont encore puissants, c'était une manière d'aborder le changement climatique un petit peu différemment de tout ce qu'on peut entendre constamment depuis la France, où finalement qu'est-ce qu'on a comme perception du changement climatique? C'est toujours à travers le rapport du GIEC, c'est toujours à travers finalement des choses extrêmement abstraites, des courbes, des statistiques. On se dit, oulala, ça vient, mais jusqu'à récemment, on ne se rendait pas bien compte de ce qui arrivait. Et du coup, je trouvais ça extrêmement beau de se dire, voilà, on peut penser ça différemment à travers les mythes.
Et c'est donc sous ce ciel d'aurore boréale qu'Annie se met à raconter.
Il faut que je vous raconte. Il y a très longtemps, dans un temps avant le temps, les écureuils, les rats, les thons, les oies sauvages, les élans, les ours, les humains, tous les animaux avaient la même forme. Rien ne distinguait un homme d'un saumon, un renard, d'un corbeau. Tous se comprenaient naturellement. Le monde était peuplé d'êtres métamorphiques en gestation. C'était le temps du mythe. Et puis, il y eut la grande séparation. Chacun se différencia des autres, jusqu'à ce que les formes se stabilisent. Là, le loup. Ici, le saumon. L'homme. Nous ne parlions plus la même langue. Chacun se mit à se cacher. Et le monde devint celui que nous connaissons aujourd'hui.
Le temps du mythe raconté par Annie, qui en parle un peu comme un âge d'or, hein, Jérémy Moreau, et qui essaie donc de transmettre par ses mots à ses jeunes hôtes parisiens des rudiments de sa culture amérindienne, et notamment en ce qui concerne le rapport à la nature. Alors ce récit, il est vraiment au cœur de l'album, et vous l'illustrez par une double page, hein, page 78-79, absolument magnifique et vraiment singulière. Alors en bas de la double page, il y a quatre cercles, on va dire quatre hublots, hein, pour bien faire comprendre à ceux qui nous écoutent et qui n'ont évidemment pas le dessin en face d'eux. Chaque personnage à l'intérieur a les yeux levés vers le ciel, donc regarde cette fameuse aurore boréale qu'on évoquait il y a un instant, et dans le ciel apparaît juste au-dessus d'eux, donc sur cette double page, une sorte de, j'appellerais ça une constellation cosmogonique, on va dire, avec un équilibre parfait, avec une symétrie aussi parfaite. Comment est-ce que vous avez imaginé cette double page, Jérémy Moreau? Comment en êtes-vous arrivé là, si j'ose dire? Le processus intellectuel et le processus graphique.
Voilà, c'est extrêmement compliqué de dire le...
Vous avez une minute.
Oui, c'est, alors, juste, je vous reprends, vous dire un âge d'or, en fait, c'est un temps parallèle, c'est un temps hors du temps. Donc, on ne peut même pas dire qu'il y a une nostalgie, puisque c'est quelque chose qui est présent en parallèle. Et moi ce qui me parle énormément là-dedans, c'est que finalement, c'est une manière mythique de parler de quelque chose qui ressemble énormément à la manière dont on apprend, en suivant l'évolution, une vision scientifique, finalement, de soupe originelle. Si on pense à ce qu'on est, nous, en tant qu'humains, et quel parcours on a dû traverser pour devenir des êtres vivants humains, à la base, on part de justement ce qu'on appelle la soupe originelle. On a tous été des organismes unicellulaires, puis on s'est transformé. Et finalement, ça ressemble tellement à cette définition du temps du mythe. Alors évidemment, beaucoup d'enjeux pour arriver à rendre graphiquement ça. J'ai essayé de beaucoup regarder les dessins des Inuits, des Gutchin, pour essayer de m'inspirer un petit peu de leur vrai art, pour ne pas trop parler à leur place. Je ne saurais pas trop expliquer comment j'en suis arrivé à ça. C'est presque impossible, en fait, parce qu'on parle d'indiscernabilité, donc il faut imaginer un magma d'âme, toutes mélangées les unes dans les autres, un temps où tous les animaux pouvaient communiquer entre eux. Donc je n'ai eu qu'une espèce de vision kaléidoscopique de quelque chose qui se répand, qui se transforme. Voilà, en lumière.
Voilà, et juste après, donc juste après ce récit, juste après cette scène kaléidoscopique, c'est pas facile à dire à la radio, eh ben, y a un petit bruit furtif, et puis il y a deux yeux qui apparaissent dans la nuit. Alors de quoi effrayer Étienne, hein, le petit garçon? Annie, elle reste extrêmement sereine. Alors peut-être est-ce Un ours, peut-être est-ce un pisli? Alors le fameux pisli hein, qui donne son titre à l'album. Alors c'est quoi un pisli, Jérémy Moreau? Dites-le quand même.
Eh bien, le pisli, ça serait une des premières espèces engendrées par le changement climatique. Et qui serait donc la rencontre entre les ours polaires qui descendent du nord puisque la banquise fond et qui rencontrent pour la première fois les grizzlies qui, eux, remontent parce qu'ils ont trop chaud. Et ils se retrouvent sur les mêmes latitudes alors que ce n'était jamais arrivé de tout le temps de l'évolution.
Donc c'est à la fois inquiétant parce que c'est la preuve que l'impact du changement climatique est réel, et en même temps c'est rassurant parce que c'est une façon pour la nature de s'adapter.
Oui, moi je trouve ça plutôt très stimulant. En fait, c'est une manière de voir que le vivant réagit, s'adapte très rapidement. Moi j'ai vraiment cette vision du vivant comme un muscle qui réagit, qui se transforme de manière assez puissante. Et c'est vers ça que tend tout mon récit. Comment nous aussi nous adapter à la manière du pisli? Est-ce qu'il ne serait pas temps de repenser l'humain?
Vous m'en direz des nouvelles sur RFI.
Avec Jérémy Moreau pour son album de bande dessinée Les Pisleys, publié chez Delcourt dans la collection Mirage. Alors c'est une tradition dans cette émission, chaque dessinateur est obligé aussi de commenter la couverture de l'album. Alors c'est toujours très important la couverture parce que c'est ce qui donne envie évidemment aux gens d'ouvrir l'album, de le découvrir et peut-être dans le meilleur des cas de l'acheter, tant qu'à faire, c'est pas plus mal. Ça doit en dire un petit peu, mais pas beaucoup, ça doit parfois résumer. Il y a un côté un peu très illustratif, parfois presque publicitaire aussi. Comment est-ce que vous l'avez imaginé cette couverture, Jérémy Moreau?
Ah oui, c'est vrai que la couverture, c'est toujours quelque chose qui me pose énormément de questions. Avant même d'avoir le projet, des fois, je réfléchis à la couverture parce que ça va être le premier contact que le lecteur ou l'acheteur va avoir avec l'album. Pour moi, c'est vraiment le visage, en fait. C'est toujours énormément de pression à créer une couverture parce que je me dis, les gens, dès qu'ils vont parler de l'album, c'est cette image-là qui va symboliser tout le reste du travail qui représente parfois 2 ans de travail. Donc, trouver cette image, c'est pas évident. Et là, c'est un hasard, en fait. Voilà, je reste toujours attentif à toutes les choses qui m'arrivent au quotidien. Et là, je me rends dans une petite boutique de brocante et je tombe complètement par hasard sur un vieux livre de Peter Pan. Et donc, je vois, alors, c'était pas des silhouettes comme ça, mais je vois les 3 enfants qui volent dans le ciel. Et je me dis, mais c'est ça en fait mon livre. C'est ces 3 enfants qui s'envolent de la ville pour aller vers un ailleurs, vers le temps du mythe, vers cette espèce de changement climatique qui est transformé en grand brouillard boréal. Et donc là, tout d'un coup, il y a une image qui pop. Et je me dis, c'est celle-là que je dois faire. Et voilà. Et
donc on a effectivement donc les 3 enfants donc qui volent dans un ciel de brouillard boréal pour reprendre effectivement votre expression et qui donc survolent la forêt. Et puis il y a le titre, l'épisode, il n'est pas écrit n'importe comment non plus le titre, Jérémy Moreau.
Oui, il est écrit assez petit, il est assez discret. J'aime bien aussi parfois faire des couvertures où l'image prend vraiment le pas sur le reste. Et puis donc on a cette aurore boréale fluo, et sur le titre et sur des petites étoiles, on a un effet argenté.
Oui. Et ces donc, petites étoiles, la forme.
Et il y a une petite surprise à découvrir.
Voilà, on ne va pas tout raconter, mais c'est vrai que c'est assez impressionnant. Et c'est vrai qu'il faut tenir le livre d'une certaine façon aussi pour pouvoir en apprécier
toute
la subtilité. C'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez. On ne révèle pas.
Si,
on allez-y, peut. Allez-y.
Et donc, ces étoiles font la forme d'un ours. Et donc, les 3 enfants se retrouvent à naviguer dans le ciel, dans le ventre de cet ours. Et donc, c'est vraiment un clin d'œil à la fin du livre.
Allez, on entre à nouveau à l'intérieur du récit, Jérémy Moreau. La scène se passe cette fois dans la maison d'Annie. On est à table, juste après une scène assez drôle qui s'est passée en pleine nature. On ne va pas la raconter, disons seulement qu'elle s'est terminée par la capture d'un porc épic. Et nous sommes donc à la page 90 de votre album.
Tu ne manges pas, Zoé?
Ben, ça me dégoûte un peu.
On l'a vu tout à l'heure tout mignon sur sa branche, et là, il est cuit dans mon assiette. Vous qui vous dites « les amis des animaux », ça vous pose pas un petit problème ?
Eh, je n'ai pas dit que c'était nos amis. J'ai dit que nous les considérions comme des personnes.
Et du coup, vous les tuez et les mangez ?
Les êtres vivants ont besoin de manger. On a tous besoin d'énergie. Nous ne nous suffisons pas tout seuls. Il faut tuer pour se nourrir, c'est ainsi. Mais considérer l'animal que je mange comme une personne, c'est très différent de le considérer comme un objet. Ou une chose, comme on le fait en France, dans les supermarchés. Quand je mange ce porc épic, je suis consciente que je mange une vie.
Bah pour le coup, moi aussi. Je vois encore son petit regard dans ma tête.
Notre culture nous enseigne le respect. Nous ne jetons pas les restes et nous utilisons tout ce qui est possible dans l'animal. Ce n'est qu'en respectant son âme que nous aurons peut-être la chance de le rencontrer à nouveau.
Ah merde ! Jusque-là, tu m'avais presque convaincue, mais là, ça devient un peu trop perché pour moi. Remarque, depuis qu'un ours est venu me parler dans mes rêves...
Alors, c'est une scène d'apprentissage, c'est une scène de transmission, c'est presque une scène de formation. Jérémy Moreau, je vais peut-être employer un grand mot, mais quelle est la morale de cette petite scène ?
Oui, alors... Souvent, j'essaie d'éviter les grands discours. Ça fait partie des rares scènes un petit peu didactiques à travers ce dialogue. Bah, on a clairement tout l'écart qu'il peut y avoir dans la manière dont on traite les animaux entre à la mode occidentale, marchande, ce que Charles Stepanov appelle l'animal matière. En fait, l'animal devient de la pure matière qui nous sert à nous nourrir. Et donc l'animisme indien, c'est tout l'inverse en fait. C'est considérer que l'animal est une personne, est l'égal de nous. Et on l'a bien compris avec le mythe tout à l'heure. C'est d'un point de vue mythique, en fait, on était la même chose à l'origine. Donc forcément, ça impose le respect et toute la stupéfaction de Zoé de se dire « bah ouais, mais vous le tuez et vous le mangez ». Bah oui, en fait, c'est ça le jeu. À partir du moment où il y a spéciation, où les âmes se séparent chacune en animal, chaque animal a besoin de l'énergie d'un autre. Mais voilà, quand on tue un animal, on l'utilise jusqu'au bout. On le remercie, on le respecte et on espère qu'on va pouvoir le rencontrer à nouveau.
Alors cet écart effectivement entre la culture occidentale et la culture à laquelle appartient Annie, on le voit à plusieurs reprises dans l'album et on le voit notamment à travers le personnage de Joe. Joe qui est un des amis d'Annie qui lui est resté sur place, hein, contrairement à Annie, lui reproche un petit peu d'ailleurs d'être parti et d'être resté si longtemps ouais. en dehors de son village natal. Mais il y a aussi chez Joe le reproche des habitants du cru vis-à-vis de l'homme blanc hein, que l'on accuse d'être responsable du réchauffement climatique. Autrement dit, tous les problèmes que moi je vis dans mon quotidien, ben c'est un peu de votre faute, même si vous êtes à des milliers ou à des dizaines de milliers de kilomètres, ce qui n'est pas faux d'ailleurs. Est-ce qu'il y a une utilité pour vous, Jérémy Moreau, à la culpabilité ou à la culpabilisation des Occidentaux que nous sommes ?
Oh, la grande question. En tout cas, cette scène-là, elle me vient, donc j'en ai pas parlé encore, mais je me suis énormément appuyé sur le livre de Nastasia Martin, qui est une anthropologue et qui a écrit un livre qui s'appelle « Les âmes sauvages ». Et donc, voilà, je suis pas allé en Alaska, je me suis beaucoup appuyé sur ses travaux. Et il y a une scène où, en fait, elle retranscrit ce que lui raconte un Indien Gwich'in. Ils sont face à un caribou qui est mort parce que il a mangé de l'herbe qui avait été polluée par des pluies acides. Et il lui dit cette phrase, tout ça, c'est à cause des Chinois. Et en fait, derrière le mot chinois, il décrit absolument toute la société occidentale,
industrielle,
moderne, industrielle, techno-marchande, etc. Et forcément que eux, ils sont très en colère, comme tous les peuples natifs indigènes. Eux ont certainement la sensation d'avoir un mode de vie qui permettrait de continuer encore longtemps. Mais on se rend bien compte que voilà. Alors aussi, je me souviens dans ce livre, en fait, il dit il faut absolument qu'on ne perde pas cette capacité à vivre en forêt parce que ça va bientôt nous être très utile.
Oui, ça fait réfléchir, effectivement. Alors, on sent quand même la possibilité, justement, dans l'album d'une catastrophe imminente. Est-ce que ce livre, c'est une façon une de plus, peut-être diront certains, de tirer le signal d'alarme. Est-ce que, à travers cet album, vous voulez conscientiser, le mot n'est pas très joli, mais enfin, il exprime bien ce qu'il veut dire, vos lecteurs et lectrices?
Non, bah, je pense que là, ça y est, la sonnette d'alarme est bien tirée depuis 4-5 ans. On en entend quand même beaucoup parler. À mon avis, c'est même un petit peu un boulet qu'on se traîne aux pieds quand on se dit, voilà, je vais faire une fable écologique parce que tout le monde est là. Oui, bah, on sait.
Encore.
On sait, ouais. Encore. Par contre, pour moi, toute la mission de cet album, c'est de ramener un petit peu de beauté. Comment est-ce que l'art peut se saisir de ce sujet qui nous hante tous? Comment est-ce que l'art peut transformer tout ça en pas quelque chose de désirable, mais au moins de le digérer d'une certaine manière? Donc moi, quand je fais mes bandes dessinées, je pense beaucoup aux jeunes. J'espère être lu par des ados qui, eux, ont connu l'histoire du changement climatique depuis qu'ils sont nés. Et on leur a toujours dit, bah, mon vieux, ton avenir, ça va être ça. Et je pense qu'actuellement, dans les productions, dans les récits, il y a une vraie urgence à traiter d'autres choses que des histoires de hiérarchie, de pouvoir, de romance entre humains, et qu'il est essentiel d'arriver à produire des histoires écologiques, c'est-à-dire qui portent un petit peu d'intérêt aux autres formes de vie que l'humain, purement humain.
Et donc, par exemple, à travers ce dessin qui se trouve en bas de la page 83, alors c'est le dessin d'un rêve, on est dans un univers à la fois très, très onirique, très chamanique aussi, pour le coup. Alors, ça se passe donc dans la chambre de Zoé, et vous nous faites entrer dans ses rêves et dans ses pensées, Jérémy Moreau.
Oui, alors c'est un moment de bascule un peu parce que voilà, ils viennent d'arriver en Alaska, ils sont dégoûtés de pas avoir d'électricité, de plus avoir d'internet, de plus avoir d'Instagram, de Snapchat. Et là, la jeune ado, Zoé, va se mettre à faire un rêve très très étrange. Elle va rêver que le fameux Pizzly vient lui parler dans ses rêves. Elle rêve aussi des animaux en pleine métamorphose. Et oui, c'est le moment où les enfants basculent dans l'adaptation, en fait. Et il y a quelque chose de très parlant chez les Gutchin. La première chose qu'ils font quand ils se réveillent le matin, c'est qu'ils se racontent leurs rêves. Et si on vient dire, voilà, j'ai rêvé de ma maman, de mon papa ou je sais pas quoi, toute la communauté va dire, ok, on s'en fout, ça n'a pas d'intérêt. Est-ce que tu as rêvé d'un saumon? Est-ce que tu as rêvé d'un ours? Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est le rapport au non-humain. C'est des indices sur où est-ce qu'on va pouvoir aller chasser et arriver à cette rencontre primordiale de l'humain avec l'animal. Et je trouve ça tellement parlant parce qu'aujourd'hui, on a un tel dédain pour l'animal et on a un tel focus sur l'humain purement humain.
Des nouvelles du monde lointain où la vie fait des étincelles, on les voit bien, même d'où on est dans la vallée, ça brille assez, et pas de montagne assez haute pour l'empêcher. L'air d'être heureux, ces gens, ils rient tout le temps. Leur visage semble n'être fait que pour l'écran. Ils causent de choses qu'on ne verra jamais ici. Ils ont des bouches qui parlent plus vite qu'il n'est permis. Comme s'il n'existait pas vraiment. Dehors, on n'entend pas les bruits sont pris par l'écran. Ou dire compte plus que ce qu'on dit. Nous avons reçu des nouvelles du monde lointain.
Nouvelle du monde lointain, la voix de Dominique A dans VMDN sur RFI, extrait de son dernier album qui parle lui aussi, comme votre album à vous, Jérémy Moreau, de notre rapport à la nature et des écrans aussi, hein, on l'a entendu. Alors comme beaucoup de gens, nous avons nous aussi très souvent des nouvelles du monde à travers nos écrans, du monde lointain notamment, et c'est le cas donc de Zoé et Étienne, la petite sœur et le petit frère de Nathan qui sont vraiment accros et qui recherchent une seule chose en arrivant en Alaska, c'est une prise de courant pour recharger ordinateur, smartphone ou plateforme de jeux vidéo. Alors évidemment, nous, on en rage un peu, on se dit que plutôt de regarder leurs écrans, eh ben, il ferait mieux de se délecter du paysage grandiose qui s'offre à eux. Heureusement, Zoé va rencontrer Ginny. Et Ginny, c'est la fille du voisin d'Annie, un homme assez étrange qui s'appelle Mike. Et Ginny, elle fait comme vous, finalement, Jérémy Moreau. Ginny, elle dessine. Qu'est-ce qu'elle dessine ?
Eh bien, elle dessine beaucoup de visions de ses rêves. Comme je disais tout à l'heure, les rêves, c'est primordial. En fait, c'est par les rêves qu'ils arrivent à établir ce lien que nous, on a absolument plus, c'est-à-dire le lien qui permet d'établir un contact, comme au temps du mythe, avec ces animaux qui n'ont plus la même manière de parler que nous. Et donc, voilà, je me suis beaucoup inspiré des dessins autochtones. Et effectivement, c'est un style de dessin comme on n'a pas du tout l'habitude, il n'y a pas de perspective. L'intérêt, ce n'est pas de faire un animal absolument ressemblant, mais c'est de faire sentir l'esprit de l'animal et comment finalement les animaux ont aussi un visage humain. C'est des dessins un peu poupées russes, mais aplatis.
Ouais, il n'y a pas de ligne de construction aussi. Hein. C'est l'expression qu'utilise Julie. Vous êtes du genre à vous méfier aussi des lignes de construction, Jérémy Moreau ?
Ah ouais, je déteste ça. Et j'en veux beaucoup à tous mes professeurs de dessin de m'avoir enseigné ça. Systématiquement, quand on passe par des cours de dessin académique, on apprend voilà, à faire la ligne des yeux pour qu'ils soient bien à la même hauteur. On apprend que dans un corps, il y a 7 têtes pour avoir les bonnes proportions. Et tout ça, pour moi, c'est tellement caractéristique de notre manière de voir le monde. On veut absolument tout calculer, trouver toujours de la géométrie, en fait, pour arriver à de la justesse et du réalisme. Et donc, effectivement, j'ai créé cette scène où Jenny lui dit « mais c'est pas du tout réaliste, on n'a pas du tout un trait entre les deux yeux, on n'a pas du tout des croix, on n'a pas du tout des boules au niveau des articulations ». Et donc, je trouvais ça intéressant de dire qu'est-ce qui est réaliste pour toi. Et en fait, pour Jenny, le réalisme, en fait, c'est d'avoir un humain caché à l'intérieur d'un rat musqué, à l'intérieur d'un ours.
Alors, à propos de dessin, justement, à propos d'apprentissage de dessin, on va faire une petite escale dans une école de dessin, justement, l'école de manga. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est l'école AAA. Vous avez fait l'école des gobelins. C'est pas tout à fait pareil. Donc, cette école, c'est l'école AAA qui a été la première école de manga en France. Elle a été fondée il y a 30 ans par des ressortissants japonais qui vivaient à Paris et elle offre donc depuis 2005 une formation précisément au manga. Fanny Blechner nous y emmène.
Dans ce qui ressemble à une salle de cours traditionnelle, une poignée d'élèves et une ambiance studieuse. Penchée sur sa feuille, crayon à la main, Antoinette a 25 ans en deuxième année.
Je fais la forme des yeux un peu comme ça. Je ne sais pas comment expliquer, un peu en amande, mais pas forcément bridé. Par exemple, là, mon personnage, il est d'origine africaine. Vive la diversité, dans les mangas surtout. C'est les sourcils qui font, je trouve, les émotions. Quand on est content, quand on est triste, là, on voit très bien les sourcils bas, énervés.
Elle a d'abord obtenu un bac pro en comptabilité avant de revenir à ses premières amours. Le manga, elle aime ça depuis toute petite.
Ça m'a appris beaucoup de choses, parce que je ne sortais pas quand j'étais petite. Ça m'a appris beaucoup de choses sur la vie, sur l'amitié, l'espoir, le courage, le continuer, même si on abandonne.
Sous son crayon, un personnage prend vie, vu de face, de côté, avec ses différents attributs et avec différentes expressions. C'est ce qu'on appelle le character design, la fiche d'identité du personnage en quelque sorte. Les élèves travaillent en ce moment sur un projet de manga de 20 pages. Sur le tableau blanc, Gwendoline Simon, professeure au sein de l'école, a inscrit 4 concepts clés pour le récit.
Nous avons le qui est l'introduction. Le sho, c'est la mise en situation. Le ten, là, c'est le problème qui arrive. Et le ketsu, ça va être sa conclusion. Très utilisé dans le yon koma, donc la bande dessinée avec les 4 vignettes. Yon, 4 en japonais. Koma, 15 en japonais. Mais c'est aussi très utilisé dans un scénario avec un développement plus long.
Le thème est libre, mais Julien, 19 ans, a déjà une idée de scénario.
C'est l'histoire d'une princesse qui a un mariage forcé. Elle refuse parce qu'elle veut décider par elle-même ce qu'elle veut faire. Et en allant dans une forêt, elle rencontre Cob Cob, le corbeau. On sait juste qu'en fait, il protège un trésor sacré de sa tribu, un trésor qui date depuis longtemps.
Lui travaille sur tablette graphique.
Après, je vais faire, au niveau de la texture et tout ça, je vais faire comme dans Berserk, où ça va être les traits.
Oui, bien sûr, très intéressant. Voilà.
Et du coup, là, ça fera un semi-réaliste,
oui.
Gore.
Toujours dans la même tradition,
avec le contraste entre ça.
La formation dure 3 ans. Au total, ils sont 6 professeurs dans l'école. Pierre-Yves Meunier en est le directeur. Il donne un aperçu des enseignements dispensés ici.
Les cours de dessin d'art. Il y a des cours justement d'histoire de la culture manga. Des cours de professionnalisation pour aider les étudiants à comprendre le monde de l'édition.
Et pour Gwendoline Simon, il serait difficile d'aborder tout ce qui est spécifique au manga ailleurs qu'ici.
Par exemple, quelque chose qui n'est pas fait dans les écoles de bande dessinée, ça va être l'étude des trames. Voilà les onomatopées japonaises et françaises. Les onomatopées japonaises, nous en avons plusieurs. Comme en français, nous avons les bruits. Mais on a aussi les onomatopées d'émotion. Le cœur qui bat, doki doki, par exemple. Et ça, déjà, c'est un défi pour les traducteurs de manga. Mais on va prendre en compte l'esthétique, justement, de ces onomatopées.
Parler japonais n'est d'ailleurs pas obligatoire, mais conseillé. Les élèves suivent des cours de langue en première année, car l'attrait pour le manga est aussi une façon pour beaucoup de s'intéresser à la culture japonaise.
Reportage de Fanny Blechner, Jérémy Moreau. Il y a une influence manga dans votre façon de concevoir la bande dessinée, dans votre découpage, sinon dans votre trait?
Bien sûr. Mon père avait ouvert une librairie quand j'avais 8 ans et c'était pile poil l'arrivée du manga en France. Il faut savoir que c'est arrivé d'abord par la télé, mais en 95, il y a Glénat, je crois, qui arrive avec Dragon Ball. Et donc, ça a été un choc énorme et ça m'a toujours inspiré pour toutes les BD que j'ai pu faire jusqu'à aujourd'hui. Et ça m'inspire à la fois dans le trait, le dessin, le chara-design, mais aussi dans la mise en scène.
Vous faites aussi de l'animation, ça aussi, ça vous sert?
Oui, bien sûr. Là, j'ai arrêté parce que c'est beaucoup trop long. J'ai une grande envie de raconter beaucoup d'histoires. Et déjà, je suis frustré de passer trop de temps sur mes bandes dessinées. Mais l'animation, c'est encore bien pire. Mais en tout cas, c'est certain que ça m'a fait beaucoup évoluer en dessin. Et au niveau des poses des personnages, on dit le posing, les actings.
Oui, on aime beaucoup les anglicismes dans ce métier. Vous avez aussi fait un peu de character design, on entendait ce que c'était dans le sujet. Merci beaucoup, Jérémy Moreau, d'être passé par les studios de VMDN. Merci à tous de nous écouter, merci également de votre fidélité. Cette émission était une rediffusion. On se retrouve bien sûr pour de nouvelles aventures culturelles et vous m'en direz des nouvelles.